Bonjour. Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Corinthiens, chapitre 13, au verset 9. 2 Corinthiens, chapitre 13, au verset 9. C'est notre verset de référence dans le cadre du nouveau chapitre qu'on a ouvert. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la maturité spirituelle?
La maturité spirituelle,
c'est très important. La maturité spirituelle, pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes en voyage avec le Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Que quelqu'un dise amen.
Amen.
Nous sommes en voyage avec le Seigneur. Et nous sommes en train de grandir avec lui. Nous sommes en train de grandir avec lui. Et quand nous voyageons avec le Seigneur, nous entrons dans des phases. Nous entrons dans des phases. Et chaque phase, on peut appeler ça une saison. La vie est faite de saisons. Quand tu viens au monde, tu es nourrisson. Après nourrisson, tu grandis un peu et tu deviens bébé. Après bébé, tu passes à l'étape de enfant. Après la saison de enfant, tu deviens adolescent. Et après la saison d'adolescent, tu deviens adulte. Et après la saison d'adulte, tu es censé atteindre ce qu'on appelle, l'âge mûr, ou encore les seniors. Ça, c'est quand tu commences à avoir les cheveux blancs. Tout ça, ce sont des saisons de la vie. Il y a des choses que tu fais aujourd'hui qu'à 60 ans, tu ne pourras plus faire. C'est pour ça que tout ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le. Parce qu'à 60 ans, tu seras vieux, les os seront rouillés. Tu vois, quand tu cours là, à 60 ans, tu ne pourras plus courir comme ça. Hein? Moi, je me rappelle... Une fois, ma mère qui a plus de 60 ans, un jour a pris la décision d'aller un peu courir. Mais elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas trop courir. Donc elle a dit, on va au moins marcher. Elle est partie au stade de l'amitié. Elle a marché. Elle a fait tout le tour du stade en marchant. Ça a duré près de 1h30. Quand elle est rentrée à la maison, elle a fait 2 jours couché au lit avec les courbatures. Elle ne pouvait plus. Parce que le corps n'a pas supporté. Donc, dans la vie, il y a des saisons. Et tout au long de l'année 2014, que nous avons intitulé à la conquête des promesses, c'est quoi la conquête des promesses? Le Seigneur nous a emmenés dans différents chapitres, dans différentes phases. Et nous avons dit beaucoup de choses. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, nous sommes déjà à la fin de l'année. Pour moi, l'année est déjà finie. Il nous reste 2 mois, là, ça va filer seulement. On est même déjà en train de se projeter déjà pour le mois de décembre, pour voir ce qu'on va faire pour la fin de l'année. Moi, je suis déjà en 2015. Moi, je suis déjà en 2015. Je vous assure, je suis déjà en 2015. Et tout ce que nous avons entendu durant l'année 2014 nous a préparé à ce message. Pourquoi? Parce que 2015 va être une année où on va commencer vraiment à expérimenter des choses. Là, c'est la préparation. Vous savez, la préparation avec Dieu, elle peut prendre 1 an, elle peut prendre 2 ans. Mais quand on te dit à la conquête des promesses, de quelles promesses on parle? Parce que Dieu a des promesses dans son alliance, l'alliance que nous avons en Jésus-Christ. Jésus-Christ a établi une alliance avec le Père. Et c'est au travers de cette alliance-là, au travers de son sang, le sang de la nouvelle alliance, que nous pouvons naître de nouveau, que nous pouvons être appelés chrétiens, que nous pouvons prier, que nous pouvons venir à l'église. Tout ça, nous sommes dans l'alliance. Je vais te dire quelque chose de très important. qu'il ne faut jamais oublier, c'est que Dieu ne travaille pas avec les gens qui ne sont pas en alliance avec lui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Si tu n'es pas en alliance avec Dieu, ne t'attends pas à une quelconque grâce ou bénédiction de la part du Dieu de la Bible. Je ne sais pas de quel Dieu on parle, mais tout le monde dit, oh mais Dieu, parce que le mot Dieu, là on met un peu tout, c'est un peu un fourre-tout, on met tout dedans, toutes les religions utilisent le mot Dieu, même le plus athée de chez athée, il dit, je refuse de croire en Dieu, le plus athée. Quand il monte dans l'avion et que l'avion commence à se cracher, il crie, oh mon Dieu! Là, il connaît Dieu, d'accord? Donc Dieu là, nous, Dieu s'est révélé, le Dieu de l'Alliance, de la Bible, s'est révélé au travers d'une personne appelée Yeshua, Jésus. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Jésus. Où? Oh, Jésus est Dieu, oui. Jésus est Dieu, oui. Il n'y a pas deux dieux ou trois dieux. Il y a un seul Dieu qui s'est révélé au travers du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le même Dieu, c'est la même personne. Et ce Dieu nous aime tellement, nous a tellement aimés, qu'il a eu le cran de se dépouiller de sa gloire et revêtir un corps humain pour venir vers nous. C'est pour ça que Jean commence, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc Jésus est Dieu. Et ce Dieu-là a établi une alliance avec nous. C'est pour ça que si tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu dis Dieu, révèle-toi à moi, révèle-toi à moi, révèle-toi à moi, révèle-toi à moi, tu vas voir que tous les gens qui ont expérimenté une rencontre personnelle avec Dieu, c'est toujours Jésus qui est venu. Tu n'as pas remarqué? Paul persécutait les chrétiens. Et au moment où il se rend à Damas, il a une vision. Et quelqu'un est en train de lui parler. Et quelqu'un lui dit, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, pardon, moi je n'ai jamais persécuté quelqu'un comme toi. Il dit, Paul, je suis Jésus. C'est moi que tu persécutes. Comment ça? Moi, je tue des gens qui font un culte à un Dieu, soi-disant. Je les tue, je les mets en prison. Tu ne peux pas rejamber contre l'aiguillon, Paul. Parce que chaque fois que tu tues un chrétien, tu me fais mal. Beaucoup de gens n'ont pas compris cette révélation-là que Jésus-Christ est en train de donner à Paul. C'est de là que tout le message de Paul part. Et c'est de là que Paul commence à parler de ce qu'on appelle le corps de Christ. Dis-moi, regarde la personne qui est à côté de toi, regarde-la bien dans les yeux. Regarde-la. Trouve quelqu'un et puis regarde-le. Regarde-le. Regarde-la. Regarde, n'aie pas peur, elle ne va pas te manger. Regarde. Hein? Et demande-lui, dis-moi, est-ce que je peux enlever ta tête de ton corps? Je peux couper ta tête et puis tu vas rester en vie. On ne peut pas. La tête et le corps sont un. Est-ce que ma tête s'appelle Luc et mon corps s'appelle Harley? Non. C'est Luc et Luc. C'est le même. Les deux sont un. Si je prends un gros marteau et puis je te dis enlève, je sais plus, je tape sur ton gros orteil là. Non, le petit, ça fait plus mal. Boum! Qui va dire aïe? C'est la bouche, non. C'est la bouche qui fait ah! L'orteil ne crie pas ah! Parce que le jour où tu entends l'orteil de quelqu'un crier ah, tu fuis seulement. C'est la bouche qui dit aïe. Parce que la douleur se ressent dans tout le corps et c'est la bouche qui s'exprime. Donc, chaque fois que Paul prenait son épée et plantait ça dans le corps d'un chrétien, la bouche en haut disait aïe. Au bout d'un moment, quand quelqu'un te tape une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, au bout d'un moment, qu'est-ce que tu fais? Tu fais, oh, arrête-toi, tu me fais mal. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a fait à Paul, oh, arrête, tu me fais mal.
C'est pour cela que Paul révèle ce mystère-là. Il est le chef de l'Église, la tête du corps, le premier-né. Amen. C'est très important de comprendre ça. Donc, toi et Jésus, là, nous, là, on est un. Oh! Mais donc, attends, tu viens de dire que Jésus est Dieu. Donc, moi, je suis quoi? Tu as déjà vu un prince à New York, le coiffeur, là, le métis, là. C'est le mystère de la nouvelle création que Paul nous prêche dans le Nouveau Testament. Psaume 82. N'ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Avec un petit dé. C'est là où les Juifs disent à Jésus, « Ah, ton message là, c'est un message dangereux. Non, non, on ne veut plus te suivre. » Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Donc, Dieu ne peut pas commencer à te révéler ce genre de choses si tu n'es pas mature spirituellement. Il y a des paroles, des vérités que tu ne pourras pas recevoir tant que tu n'auras pas la capacité de les entendre. C'est comme si je prends ma fille Kaela qui a 5 ans et puis je commence à lui parler du théorème de Pythagore. Elle va me regarder et dire, papa, ça ne va pas dans ta tête. Il faut d'abord qu'elle aille à l'école, qu'elle apprenne à lire, écrire, qu'elle apprenne un certain nombre de choses et puis sa raison va grandir, augmenter, elle va croître et après, quand elle sera en capacité, au bout d'un certain âge, de comprendre ce genre de choses, on pourra lui expliquer. Tu n'as pas remarqué que la première fois qu'on t'a enseigné 1 plus 1, tu étais comme ça? Tu ne comprenais rien. C'était compliqué. Il fallait que ça rentre. 1 plus 1, 3. Non. 5. Non. 2. Voilà. Tu vois, donc, il faut d'abord faire ce travail-là pour qu'ensuite, quand tu as compris la table des additions, on te met ensuite à la table de la soustraction. Alors, 2 moins 1, ça fait combien? 5. Et petit à petit, table des additions, table de soustraction, et ensuite la table de multiplication. Après, division, et ainsi de suite. Et après, on commence à t'apprendre les carrés, les cubes, toutes ces choses-là. Et je suis sûr que si je commence à te poser des questions, là, tu as oublié. Voilà, donc, ce que j'explique là, c'est exactement la même chose au niveau spirituel. Il y a des vérités, des révélations par rapport à ta vie spirituelle, par rapport à ta relation avec Dieu que tu ne peux pas comprendre. C'est pour cela qu'il y en a, par exemple, ils viennent prêcher l'évangile à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Jésus, qui ne connaît pas Jésus pour la première fois, et puis il commence par des choses compliquées. Il lui dit, tiens, lis la Bible et puis va lire Ézéchiel et Ésaïe en premier. Non, tu ne commences pas à lire Ézéchiel et Ésaïe, parce que ça, ce sont des livres compliqués. La première fois que mon petit frère a donné sa vie à Jésus, il est parti lire Ésaïe. Et quand je rentre du travail, je lui dis, alors, tu as avancé dans ta Bible? Il me fait, ah mais gars, ton livre, c'est compliqué, Ésaïe, oh, c'est dur, je n'arrive même pas à finir le premier chapitre. Mais c'est normal, en commençant par Ésaïe, on commence par Éphésiens, Jean, des livres qui sont plus simples. Voilà. Tu as déjà fini le livre d'Ésaïe, toi. Donc, Dieu nous emmène par phases. Et plus on avance avec lui, plus il s'assure qu'on a compris un certain nombre de choses. Parce que tout simplement, à l'arrivée, il y a ce qu'on appelle les promesses. Dieu a passé 40 ans avec le peuple juif dans le désert parce qu'il n'était pas prêt à entrer en Canaan. Amen. Il n'était pas prêt à entrer en Canaan. Au lieu de c'est un voyage qui devait durer 11 jours a duré 40 ans. 40 ans, un voyage qui devait... En fait, pendant 40 ans, le chemin de 11 jours, là, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le désert? Ils ont tourné en rond. Ils étaient là, après ils se déplaçaient, mais pendant 40 ans, ils tournaient en rond, en fait. Jusqu'à ce que Dieu a dit, vraiment, sans espoir, cette génération ne rentrera pas en Canaan, on la tue seulement, on attend qu'elle finisse. Et puis c'est la génération des jeunes de Josué qui est entrée en Canaan. Et la génération de Josué, c'est toi et moi. Dis Amen. Celle qui entre en Canaan, celle qui conquiert les promesses, celle qui est la génération des conquérants, des guerriers, celle qui se bat, celle qui entre dans le royaume et qui prend possession de son héritage avec violence. Ça, c'est la génération de Josué, celle qui n'a pas peur. Et Dieu aujourd'hui À cause des gens qui n'arrêtent pas de lui donner des maux de tête, Dieu s'est réservé un reste de personnes, de jeunes qui sont radicaux, qui sont passionnés de Dieu, passionnés de Christ et qui se lèvent et qui disent haut et fort, Jésus-Christ est Seigneur, maintenant repentez-vous. Amen. Ça, c'est la génération que Dieu est en train de lever aujourd'hui, particulièrement en Afrique. Je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Vous ne savez pas que Dieu, entre guillemets, a une dette envers l'Afrique? Est-ce que vous saviez ça? Dieu a une dette envers l'Afrique. Vous voulez savoir pourquoi? Quand Dieu a contracté ses dettes, quand Jésus-Christ était sur le chemin de la croix, Jésus-Christ était en train de monter à Golgotha. Il était en train de porter la croix. Regarde la passion du Christ, tu vas mieux comprendre. Et au bout d'un moment, la croix était trop lourde. La Bible dit que Jésus, il s'est écroulé. Il ne pouvait plus se lever. Donc si Jésus-Christ ne se levait pas là, la destinée n'était pas accomplie. Et là, il y avait quelqu'un qui passait son chemin et les Romains ont dit, Simon, prends Simon de Cyrène. Simon de Cyrène, vous savez c'est qui? C'était un Libyen. Il ne faut pas blaguer avec la Libye, hein. Dieu a quelque chose avec la Libye. Simon de Cyrène, c'était un Libyen. Un Africain. Il est venu, il a relevé Jésus et il a porté la croix et Jésus de l'autre côté. Il n'y a que les Africains, soit qui sont costauds comme ça. Là. On ne peut pas prendre un blanc. On a pris un Africain costaud. Il a porté la croix d'un côté. Jésus ne porte que la croix seule. Lui, il porte la croix et il tient Jésus. Et il emmène les deux jusqu'au trône. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les Africains? Oui, et quand Dieu voit ça, Dieu dit, Afrique, je vais te rendre ça. Ah oui. Et maintenant qu'on avance avec le Seigneur, qu'on est, parce que spirituellement, on est en Canaan, puisque Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Spirituellement, nous avons tout. Notre héritage en Christ est bien réel. Mais pourquoi alors il y a autant de chrétiens qui ne jouissent pas de leur héritage en Christ? Pourquoi il y a autant de chrétiens qui ne prient pas ou bien qui vont à l'église et qui au bout d'un moment se fatiguent avec les choses de Dieu et retournent à leur ancienne vie? Parce que tout simplement, il y a un niveau de maturité spirituelle qu'ils n'ont pas atteint. Ce qui les empêche d'entrer dans un certain niveau de révélation de Dieu et ils restent bébés toute leur vie. Amen. Et c'est ce que nous avons commencé à voir. Nous avons dit beaucoup de choses. La semaine dernière, on a parlé de la croissance spirituelle qui était le prérequis pour être un disciple exemplaire de Christ. On a défini ce qu'était que la maturité spirituelle et pourquoi Dieu voulait que l'on soit mature. Et c'est la prière que Paul a faite ici. On va le lire ensemble. 2 Corinthiens 13 au verset 9 qui nous dit « Nous, nous réjouissons lorsque nous sommes faibles tandis que vous êtes forts et ce que nous demandons dans nos prières... » Ce n'est pas que Dieu vous donne de l'argent. Ce n'est pas que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas que parce que vous êtes déjà béni. Ce n'est pas que Dieu vous donne toutes sortes de faveurs matérielles. Ce que nous demandons à Dieu par-dessus tout, c'est votre perfectionnement. Dis avec moi le perfectionnement. Le perfectionnement. Et le mot perfectionnement veut simplement dire mature. Une autre version du même passage nous dit, je ne sais plus où est le passage, parole vivante, voilà, elle nous dit, nous sommes contents de paraître faibles pourvu que vous soyez réellement forts. C'est justement ce que nous demandons à Dieu dans nos prières, que vous trouviez le chemin de la véritable maturité chrétienne et que vous y marchiez de progrès en progrès. Amen. Que quelqu'un dise la véritable maturité spirituelle. C'est ce que nous demandons. Que vous grandissiez, que vous arrêtiez d'être des enfants. Quand tu donnes ta vie à Jésus, que tu crois au Seigneur, tu nais de nouveau. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est que tu grandisses. Tout père et toute mère qui mettent au monde un enfant s'attendent à voir l'enfant grandir. Et quand l'enfant ne grandit pas, on dit qu'il est malade. Il y a un problème. Donc s'il y a bien une prière importante que Paul fait à Dieu, c'est celle-là. Et on a identifié le mot maturité traduit par perfectionnement. Et on a dit que c'est, le Seigneur nous a montré que c'était le mot grec katartizo. Dis avec moi katartizo. Katartizo. Katartizo qui veut simplement dire transformation. Et toute personne qui donne sa vie à Jésus est quelqu'un qui est appelé à devenir ce qu'on appelle un disciple. Dis avec moi un disciple. Jésus-Christ ne travaille pas avec des gens qui ne sont pas ses disciples. Les gens qui expérimentent des choses profondes et puissantes avec le Seigneur, ce sont les disciples. Il y a une différence entre ceux qui sont disciples de Jésus et ceux qui font partie de ce qu'on appelle la foule. Parce que quand tu lis l'histoire des évangiles, il y avait la foule et il y avait les disciples. La foule, c'est tout le monde. Dans la foule, il y a tout le monde. Il y a le croyant, il y a le non-croyant, il y a tout le monde. Il y a les religieux, il y a tout le monde. Les gens qui suivent Jésus comme ci, comme ça, par toutes sortes de motifs personnels. Et il y a les disciples. C'est pour cela que tu remarqueras dans la Bible que Jésus-Christ parlait toujours deux fois. Chaque fois que Jésus-Christ parlait, il parlait toujours devant la foule en donnant des paraboles. Et ensuite, il expliquait les paraboles en privé à ses disciples. Les disciples sont ceux qui ont la capacité d'entendre les secrets. Les disciples sont ceux qui sont dans l'intimité de Dieu. Ceux qui comprennent ce que Dieu veut dire. Ceux qui sentent les choses parce qu'ils ont une intimité particulière avec le Saint-Esprit. Amen. Donc, c'est très important de comprendre que ce que Dieu veut de nous, c'est qu'on soit un disciple. Et aujourd'hui, moi, je vais me concentrer sur ça. Comprendre le véritable engagement d'un disciple de Christ. Comprendre le véritable engagement. Dis avec moi engagement. Engagement ici, c'est un mot très important. Parce que dans ta marche avec le Seigneur, tant que tu ne choisis pas de t'engager, sincèrement, tu n'évolueras pas. Tu resteras au même point. De toute façon, c'est un principe universel dans la vie. Quel que soit ce que tu veux faire dans la vie, tu dois t'engager. Même dans les histoires amoureuses qu'on a vues pendant 3 mois pendant l'été. Tu es là, tu suis la fille de l'autre, tu es avec elle. Au bout d'un moment, elle te dit, bon, il faut te décider. Tu t'engages ou tu ne t'engages pas? Tu m'épouses ou tu ne m'épouses pas? Parce que faut m'épouser. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de gens qui ne veulent pas s'engager dans ces choses-là. Tu es avec la personne depuis je ne sais pas combien de temps. Au bout d'un moment, il faut l'épouser. Parce que la fille de quelqu'un, le père, lui, il n'a pas mis sa fille au monde pour qu'elle soit avec quelqu'un qui ne la marie pas. Toi, ça te ferait plaisir d'avoir une fille et puis il y a un gars qui l'a fait tourner en rond pendant toute la vie. Ça te ferait plaisir. Pourquoi tu fais ça à la fille de l'autre? Tu fais ça à la fille de l'autre, mais tu ne voudras pas qu'on fasse ça à ta fille. Hein? Juste en parenthèse, ce n'est pas elle qui doit te demander en mariage. C'est toi qui dois demander. C'est toi qui dois demander la fille en mariage. C'est pas elle. Hein? Ça existe. Les filles qui demandent les hommes en mariage, c'est pas normal. Elles sont malades, elles ont un problème. Hein? Donc, quand on suit Jésus, au bout d'un moment, on doit s'engager. Et quand on lit les évangiles, on se rend compte que Jésus-Christ demandait toujours un engagement sincère de la part de la personne qui voulait le suivre. Il nous dit dans le livre de Luc, au chapitre, je ne sais plus quel chapitre, ce sont les slides de la semaine dernière. 14:33. Luc au chapitre 14, au verset 33. C'est Jésus-Christ qui parle ici. Et regardez ce qu'il dit. Jésus-Christ dit, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Pourquoi? Parce que dans la vie, quand tu marches avec le Seigneur, le Seigneur, au bout d'un moment, va toujours te confronter à un choix. Soit tu le suis, soit tu restes dans le monde. Et beaucoup de gens, malheureusement, choisissent la deuxième solution, de rester dans le monde. Parce qu'ils ont trop d'intérêt dans le monde. Mais avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. S'il y a bien quelqu'un qui est radical, c'est Dieu. Tu es radical. Vous savez, l'histoire de Dieu, là, il n'y a pas de neutre. Dans le royaume de Dieu, on n'est pas neutre. C'est soit tu es dans le royaume, soit tu n'es pas dans le royaume. tu es avec moi ou tu n'es pas avec moi? Même dans la politique, au bout d'un moment, la personne qui doit avancer là, au bout d'un moment, elle doit s'arrêter, demander aux gens, bon, vous êtes avec moi, vous n'êtes pas avec moi, parce que, au bout d'un moment, il faut s'engager, les gars, il faut être clair. Politique et dans n'importe quel autre domaine de la vie. Et Jésus-Christ était comme ça. Les gens le suivaient tout le temps, mais Jésus-Christ, au bout d'un moment, il disait aux gens, eh bon, celui qui veut me suivre là, qu'il abandonne tout ce qu'il a. Amen. Donc, on ne peut pas prétendre à la maturité spirituelle si notre marche avec Jésus ne naît pas d'un engagement sincère qui vient de notre cœur. Dis avec moi encore un engagement. Et quand on observe dans la vie de beaucoup de chrétiens, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas engagés. Parce que quelqu'un qui te dit « je suis en Christ », mais tu vois sa vie chrétienne, tu vois qu'il est encore dans le péché, tu vois qu'il est encore dans beaucoup de mauvaises choses du monde, c'est quelqu'un qui ne s'est pas engagé. C'est quelqu'un qui n'a pas encore choisi de suivre Jésus. Il dit ça comme ça de la bouche, mais bon. Il faut faire attention avec l'histoire de « je suis en Christ, je crois en Jésus » là. Il faut faire très attention à ça. Quand quelqu'un te dit « je suis en Christ », tu fais « on va voir ». Bien, avançons d'abord, on va voir. Si c'est un garçon qui vient te voir et puis te dit « tu es belle, tu sais, tout ça », il faut donner ta vie à Jésus, hein, mais je suis déjà en Christ aussi. C'est pour t'endormir. Il faut le laisser d'abord avancer un peu avec toi pour voir s'il est vraiment en Christ. Et c'est plus tard, sur le long terme, que tu vas te rendre compte qu'il est vraiment en Christ ou pas. Amen. De même, quand tu veux t'associer avec quelqu'un, que ce soit dans les affaires ou dans n'importe quel domaine, tu dois d'abord t'assurer que la personne est. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'associer avec les non-chrétiens. Ce n'est pas ce que je veux dire. Si Dieu t'a parlé, va t'associer. Si Dieu ne t'a pas parlé, ne va pas t'associer. Je ferme la parenthèse. Amen. Donc, il y a deux types de personnes. Deux types de personnes dans le royaume. Il y a ceux qui se sont convertis, vraiment convertis, et qui marchent avec le Seigneur, et ceux qui ne se sont pas convertis. Ceux qui ne se sont pas convertis, ce sont ceux dont Jésus-Christ parle dans la parabole du semeur, dans le livre de Matthieu, au chapitre 13. Matthieu chapitre 13, au verset 4. On va lire un peu. Est-ce qu'on peut sortir nos Bibles, pour ceux qui en ont quand même? Matthieu chapitre 13, au verset 4, c'est Jésus-Christ qui parle. Et Jésus-Christ nous dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain, 100, un autre 60, un autre 30, puis que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que quelqu'un dise amen. Sauf que là, les gens n'avaient pas trop compris ce que Jésus-Christ disait. Les gens étaient en train de... Jésus-Christ était en train de définir ici les différents types de chrétiens qui existent, les différents types de disciples qui existent. Et la première catégorie, ceux qui ne se sont pas convertis, ceux qui ne se sont pas engagés, ceux qui n'ont pas encore atteint la maturité spirituelle, ceux qui n'ont pas encore expérimenté pleinement Dieu, font partie de la première catégorie dont Jésus-Christ est en train de parler. Il explique la parabole plus loin à ses disciples. Dans Marc 4, au verset 14, il dit, ok, on va en privé, je vais vous expliquer. Et Jésus-Christ maintenant leur dit, le semeur sème la parole qu'on entend. La parole qu'on entend le dimanche à l'église, la parole qu'on entend lorsqu'on lit la Bible, la parole qu'on entend lorsqu'on écoute un enseignement, la parole que tu entends lorsque quelqu'un vient te parler de Jésus. Il est le semeur. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Voici la première catégorie. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Voici encore une autre catégorie de chrétiens qui fait aussi partie de la catégorie des gens qui ne se sont pas convertis. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Dans cette catégorie-là, d'une certaine manière, on peut dire que les gens se sont convertis. Les gens ont entendu la parole et ils ont décidé de suivre Jésus. Mais il y a des circonstances dans la vie qui les amènent à faire marche arrière. Ils manquent de persistance et ils n'ont pas de racines. Ensuite, il continue en disant, « D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. » Et enfin, voici ceux qui font partie de la catégorie de ceux qui se sont vraiment convertis et qui ont décidé de s'engager à suivre Jésus. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour 1. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc la première catégorie, ce sont les trois personnes que Jésus-Christ définit. Ceux qui ne portent pas de fruit pour différentes raisons. Ceux à qui d'abord Satan vient et enlève la parole, tu entends l'évangile pour la première fois, mais avant que tu comprennes, avant même d'arriver à la maison, le diable a déjà enlevé. Comment le diable vient enlever la parole que tu as entendue? Je ne sais pas. Tu es touché, tu sors de l'église, tu es vraiment touché, tu es content et ça te fait réfléchir sur ta vie. Et pendant que tu es en train de rentrer, ton téléphone sonne. Oui, c'est qui? Oui, c'est moi. Tu viens d'où? Oh, mais je sors de l'église là. Oh, ton histoire d'église là, laisse ça, il n'y a rien là-bas. Mais la personne t'endort une fois, deux fois, trois fois au téléphone. Et puis quand elle a raccroché, tu fais, c'est vrai, il m'a embrouillé là-bas. Là. Je retourne dans mon ancienne vie. C'est le diable, mon ami. Avant que tu n'aies compris. Ceux qui entendent la parole, mais leur immaturité spirituelle et leur manque de persévérance les empêchent de grandir. Ça, c'est les deuxièmes. Et les troisièmes, ceux qui entendent la parole, mais qui sont encore trop attachés aux choses du monde. Il y en a beaucoup qui entendent l'évangile. Qui veulent croire en Jésus-Christ, qui veulent le suivre, mais qui sont encore attachés à quelque chose, à quelqu'un, à une activité, et qui ne veulent pas laisser ça. Ils ne grandiront pas spirituellement. Au lieu de dire « Amen, dis avec moi, aïe. » Mais ceux qui suivent Jésus et qui s'engagent sincèrement, ils portent du fruit et grandissent et vont très loin avec le Seigneur. Et je déclare au nom de Jésus-Christ qu'il s'agit de toi. Amen. Et aujourd'hui, on trouve tous ces types de personnes-là dans l'Église. Toutes ces personnes-là, on les trouve dans l'Église. Des gens qui sont avec le Seigneur depuis un moment. Mais tu sais, cette histoire de maturité spirituelle-là, elle n'est pas automatique. Hein. Ce n'est pas parce que tu viens à l'Église tous les jours que tu vas grandir spirituellement et que tu vas expérimenter Dieu. La maturité spirituelle ouvre beaucoup de portes. On va le voir à la fin. Mais je t'assure que la maturité spirituelle n'est pas quelque chose d'automatique. La maturité spirituelle naît d'un engagement sincère et profond qui vient du cœur, que je décide aujourd'hui de suivre le Seigneur, de marcher avec Jésus et d'obéir à ses commandements. Amen. Donc, quand tu viens à l'église et que tu observes les gens, tu découvres que les gens sont tous à différents niveaux, mais tous appartiennent à ces quatre catégories. Ma prière, c'est que tu sois dans la dernière catégorie qui est celle de la maturité spirituelle. Et c'est pour cela que Paul nous dit que nous demandons dans nos prières votre perfectionnement. Catharthizo. Dis avec moi catharthizo. Oui. Malheureusement, ceux qui ne portent pas de fruits, ceux qui n'arrivent pas à la maturité spirituelle, ce sont ceux qui, très souvent, viennent à l'église pour d'autres raisons, autres que Jésus. Quand tu viens à l'église par intérêt personnel et non par amour pour Jésus, tu freines ta croissance spirituelle. Tout de suite. Beaucoup de gens viennent à l'église parce qu'ils cherchent quelque chose ou quelqu'un. La question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu te lèves le matin? Au lieu de rester dormir comme tout le monde. Le lit, c'est bon, hein, je t'assure. Le matin, parfois, on a envie de rester au lit. Mais pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi est-ce que tu suis Jésus? Jésus, 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 là. Pourquoi tu le suis? Pourquoi tu n'irais pas suivre quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce que tu suis Jésus? Est-ce que tu viens à l'église pour quelqu'un? Est-ce que tu viens à l'église pour une femme? Pour un homme? Pour de l'argent? Pour une percée, j'en sais rien. Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu suis Jésus? Pourquoi tu as donné ta vie à Jésus? Pour une passion? Pour une activité? Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de chrétiens qui sont rentrés à l'église par la fenêtre. Ils ne sont pas entrés par la grande porte. Tu sais, c'est qui les chrétiens qui sont entrés par la fenêtre? Ce sont les chrétiens qui sont entrés à l'église pour une raison. Pas pour Jésus. Pas par amour pour Jésus. Quand on suit Jésus, on le suit par amour pour lui. Amen. On le suit par amour pour lui. On le suit parce qu'on a une passion personnelle avec lui. On ne suit pas Jésus pour une raison charnelle, une raison qui nous est propre, par intérêt personnel. Parce que tôt ou tard, si tu veux avancer avec le Seigneur, Dieu va exposer ça. Et Dieu va te dire, choisis maintenant. Choisis entre lui ou moi. Choisis entre ça ou moi. Choisis. Parce que tôt ou tard, tu vas voir que cette personne ou cette activité ou cette raison, ce motif va se mettre entre toi et Dieu. Et tu devras choisir. Dieu est comme ça. Dieu est toujours comme ça. Et ça peut ne pas toujours être une personne. Hein. Ça peut même être quelque chose de très spirituel. Des préjugés, des choses que tu as reçues, des croyances, des totems. Tu peux avoir grandi, par exemple, dans un milieu où on t'a appris un certain nombre de choses. Tu as embrassé une religion, quel que soit le nom de la religion. Pour moi, toutes les religions, je les mets toutes au même niveau. Il n'y en a aucune qui est meilleure qu'une autre. Mais les religions n'ont pas été, et ne sont pas choqués par cette phrase, les religions n'ont pas été créées par Dieu. Les religions sont la compréhension des Écritures venant des hommes qui les ont interprétées et qui se sont fait une image de Dieu. C'est pour ça qu'il y a différentes religions, différentes idées, différentes croyances. Et dans les religions, il n'y a pas de mauvaises choses. Hein. Il y a de très très bonnes choses dans les religions. Il y a des gens qui sont très religieux, qui ont une très très bonne moralité, hein, qui sont des gens très bien. Rien à dire. Hein. Mais c'est des gens, quand ils arrivent au contact de Jésus, vous savez, ce que Jésus-Christ prend souvent plaisir à faire, c'est qu'il vient, il balaie tout. Et il dit, moi, seul. Imagine quelqu'un qui est dans une religion et qui a toujours cru en des choses bonnes, qu'on ne peut pas remettre en question. Des très bonnes choses. Et quand il entend l'évangile, Jésus-Christ lui dit, laisse tout ça et suis-moi. Ne crois qu'en moi et en moi seul. Aie foi seulement en moi et pas en autre chose ou en quelqu'un d'autre. Juste en moi. C'est difficile pour la personne. C'est pour ça que quand on annonce l'évangile du royaume et de la grâce de Jésus-Christ à des gens qui ont toujours cru en des choses et qui ont grandi dedans, qui sont nés dedans, c'est difficile pour eux de laisser ça. Mais Jésus-Christ dit, celui qui abandonne tout pour me suivre aura la vie éternelle et retrouvera au centuple tout ce qu'il aura abandonné. Amen. Il n'y a pas de plus belle décision que celle de suivre Jésus. Il n'y a pas de meilleure personne, de plus belle personne que la personne de Jésus-Christ. Je vous assure, moi j'étais un fervent religieux avant. J'ai eu mon époque, mon temps aussi, j'étais aussi un grand bandit de grand chemin. J'ai eu mon temps. Vous me voyez là, moi j'étais un... On était chaud nous. On a fait les 400 coups. Libreville, à qui ne nous connaissait pas? Tout le monde nous connaissait. Je ferme la parenthèse, vite. Hein? Mais le jour où on entend l'évangile pour la première fois, quand l'évangile entre, ça te cogne là. Tu dis, et tu sais que tu dois laisser ça. Moi par exemple, j'avais quelque chose que j'aimais très particulièrement, que j'ai dû abandonner quand j'ai suivi Jésus. C'était la musique. Vous n'avez pas vu comment j'aime chanter, j'aime la musique. Parce que moi, je suis né dans la musique. J'ai grandi dans la musique. J'ai chanté. J'ai même fait du rap. C'est pour te dire. J'ai rappé. J'ai rappé, moi. J'ai fait tous les rappés, chanter, tout ce que tu veux. Et je voulais, comme beaucoup de jeunes dans le monde, je voulais percer, moi. Je voulais percer. Je voulais devenir une star de la musique. Je voulais devenir une star. J'étais prêt à tout. J'étais tout prêt à tout sacrifier pour devenir une star de la musique. Et Dieu a toujours la fâcheuse habitude d'attendre que tu arrives presque à l'accomplissement de ce que tu voulais pour te dire « Ah ah, c'est maintenant que tu dois choisir. » Non, tu ne pouvais pas me demander ça avant qu'on me fasse ce type de proposition. Je vous assure, j'étais en train de signer un contrat de musique dans la plus grande maison de disques au monde. En France. J'avais galéré pour en arriver là. On avait déjà tout prévu de m'emmener à Londres dans un studio d'enregistrement. Le clip, le budget avait déjà été pensé. Oui, j'étais content. J'avais gardé ça secret, je n'avais pas dit à mes frères, j'attendais que les papiers se signent pour venir leur annoncer. Hein? Je commençais d'ailleurs à passer sur les radios connues à Paris, Ado FM, tout ça. Je passais déjà dessus. Ma musique commençait à tourner, ça faisait trop plaisir. Le matin, je me lève et puis tu écoutes la radio, ça fait trop plaisir, je t'assure. Tu écoutes la radio, tu te lèves le matin, tu vas à l'école et puis tu entends ton son à la radio. Et puis à la fin, tu entends seulement les gens qui laissent des messages. Hey, il est trop bon, ce son, vous pouvez remettre et tout. Tu es content, c'est toi. Tu vas devenir une star. Et là, une semaine avant la signature du contrat, je ne sais pas, c'est ce Saint-Esprit-là. Il a pris mon corps là et puis il a emmené ça à l'église un dimanche. Et arrivé à l'église, j'entends l'évangile. Et puis je dis, ah, ce que j'ai entendu là, ça m'a fait quelque chose. Hein. J'ai dit, je veux revenir encore le dimanche d'après. Au bout de 3 semaines, en allant à l'église, je pleurais seul dans ma chambre. Je dis, Dieu, je ne peux pas renoncer à ça, non. Je ne peux pas laisser ça. Je ne peux pas. C'est trop. Tu te rends compte? Laisser une signature en maison de 10, je vais devenir millionnaire, moi. Bon, enfin, je croyais. Par la grâce de Dieu, j'ai réussi. J'ai cédé à la main de Dieu, à la douce main de Dieu, et puis j'ai donné ma vie à Jésus. Amen. J'ai donné ma vie à Jésus. Et après le reste, ça c'est mon histoire. Si tu veux connaître la suite, viens me voir après le culte. Donc, Jésus est comme ça. Et il va te demander de choisir. Et quand on regarde la Bible, il y a des gens qui suivaient Jésus pour des motifs personnels. Un en particulier. On va lire un peu. Cette histoire est très intéressante. Cette histoire est l'une des paroles, c'est l'un des passages où Jésus-Christ parle clairement ce qui concerne l'engagement de le suivre. Dans le livre de Jean, au chapitre 6, au verset 22, on commence jusqu'au verset 29. Il dit, là je lis dans la version parole vivante, « Le lendemain, les gens qui sont restés sur l'autre rive constatent qu'il n'y a là qu'une seule barque. Ils se rappellent d'autre part que Jésus n'y est pas monté avec ses disciples, mais que ceux-ci sont repartis seuls. Entre-temps, d'autres barques arrivent de Tibériade, vers l'endroit où tout ce peuple a été nourri après que le Seigneur ait prié pour remercier Dieu ou encore rendu grâce. Quand donc les gens voient que ni Jésus ni ses disciples ne sont là, ils se précipitent dans ces petites embarcations pour aller à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils étaient motivés. Ils étaient motivés à trouver Jésus. Ils le trouvent en effet sur l'autre rive du lac. Alors ils lui demandent, « Maître, quand est-ce que tu es venu jusqu'ici ?» Regardez ce que Jésus leur répond. Vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris que ces miracles sont des signes de ma mission divine. Non. Dis avec moi non. Dis encore non. Vous m'avez suivi parce que vous avez mangé. Hey. Vous m'avez suivi parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasié, ventre plein, ventre content et en veut encore. Vous m'avez suivi parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasié. Au lieu de travailler pour une nourriture périssable, concentrez donc vos efforts sur celle qui dure jusque dans la vie éternelle. Cette nourriture, le Fils de l'homme veut vous la donner. Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir. Il l'a accrédité en le marquant de son sceau. Et que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous? Lui demandèrent-ils. Que devons-nous faire pour accomplir ce que Dieu attend de nous? Hein? Comme tu dis qu'on a trop mangé. Ben, dis-nous ce qu'on doit faire alors. Dis-nous ce qu'on doit faire pour parvenir à la maturité spirituelle. Dis-nous ce qu'on doit faire pour te suivre. Jésus leur répond.
L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé, que vous placiez votre confiance en lui. C'est ici la réponse à la question, c'est quoi faire l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est de croire. Ne te demande pas comment ou où, comment Jésus va t'emmener, où est-ce qu'il va t'emmener. Ne te pose pas de questions. Cette histoire de Jésus-là, je ne sais pas où est-ce que ça va m'emmener. Ne te pose pas la question. Crois, c'est tout. Dis avec moi, crois. Crois, c'est tout. Et suis Jésus. Écoute ses commandements. Écoute ses paroles. Mets-les en pratique dans ta vie. Suis-le. Et tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Parce que nous, on raisonne trop. Et souvent, on vient à Jésus parce qu'on veut quelque chose. Avant, tu ne venais pas à l'église. Soi-disant, tu crois en Jésus, tout ça. Mais tu ne venais pas à l'église, tu ne priais pas, tu ne lis jamais ta Bible. Et puis un jour, boum, il y a une situation qui arrive dans ta vie. Un malheur, ça fait mal, tu pleures. Puis ce jour-là, tu te réveilles un matin, je veux venir à l'église. Et puis à l'église avec les larmes, je pleure, Seigneur, oui. Ça fait mal. Pourquoi tu as permis ça? C'est maintenant que tu vas lui demander pourquoi tu as permis ça. Viens, pleure d'abord un bon coup. Et Dieu, vous savez ce qu'il est, comment il est? Il te laisse bien pleurer. Tu sais quand... Bon, pour ceux qui ont des enfants, ils comprennent. Tu sais quand l'enfant a... Quand l'enfant a fait une grosse bêtise, là. Et puis elle vient pleurer. Toi, tu là, tu joues le dur, papa. Tu ne la regardes même pas. Elle pleure, papa, papa. Tu la laisses bien pleurer longtemps. Elle croit que papa l'a abandonnée. Tout ça. Et après, quand elle est fatiguée, elle n'a plus de larmes, c'est même sec déjà. Et puis, elle commence à m'adormir. C'est là où tu viens maintenant. Je suis là. Ça, c'est les bons papas, ça, comme moi. Hein? Donc, eux, ils suivaient Jésus parce qu'ils avaient mangé. Ils étaient rassasiés. Et Jésus avait compris ça. C'est pour ça que vous me suivez. Et ces gens, malheureusement pour eux, avaient un motif qui était charnel. Ils ne suivaient pas Jésus parce qu'ils l'aimaient. Ils suivaient Jésus par intérêt. Maintenant, ce que Jésus-Christ fait ici, c'est qu'il expose leur vraie raison. Et il commence, et il balaie ça. Et là, si vous lisez bien les évangiles, si vous connaissez bien ce passage-là, Jean 6, Jean 7 et Jean 8, c'est toute une discussion qui s'enchaîne. C'est un long débat. C'est le passage des évangiles où les gars ont pris vraiment les cailloux pour le frapper. Parce que c'est dans ce passage-là qu'il dit « Je suis Dieu ». À la fin de la discussion, Jean 8, il dit « Je suis Dieu ». Bon, écoutez, vous me fatiguez, je suis Dieu. Et puis, vous savez, dans ce passage-là, quel est l'endroit qui prouve qu'il est? Au moment, là, il dit qu'au moment où ils prennent les cailloux pour le frapper, attends, imagine un peu, on dit bien la foule, ça veut dire qu'ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Gars, imaginez que vous tous là, vous êtes en face de moi. Vous vous levez tous avec des cailloux et puis vous dites, on va te frapper, on va te bastonner aujourd'hui. Dites-moi, vous pensez que je vais arriver à sortir d'ici? Franchement, je vais faire comment pour sortir? Vous êtes tous là en face de moi. Une bonne centaine de personnes. Ils se tiennent en face de Jésus avec des cailloux. Et la Bible dit qu'au moment où ils voulaient le frapper, Jésus s'échappa au milieu d'eux. Comment il fait? Comment il a fait pour s'échapper au milieu d'eux? La Bible met point. Parce qu'en fait, à ce moment-là, Jésus a dit, boum, on arrête le temps, vous êtes paralysés tous, je passe au milieu de vous. Je suis Dieu. Ce sont des passages très surnaturels. Amen. Et là, dans cette discussion-là, Jésus commence à balayer leurs motifs. Et Jésus-Christ commence à leur révéler sa vraie identité. Il dit ensuite, dans Jean 6, au verset 48, on continue la discussion. Il dit, je suis le pain qui donne la vie. Ah, les gars commencent à dire, ah non, ça devient compliqué ce que tu nous dis là. C'est toi qui donnes la vie aux hommes maintenant? Toi, tu donnes la vie aux hommes. Pourtant, ce sont les disciples, hein, soi-disant, qui étaient en train de le suivre, qui le cherchaient, qui ont traversé vents et marées pour arriver jusqu'à lui, qui ont pris des barques, etc. Et quand ils arrivent, il leur dit, vous me cherchez parce que vous avez mangé, vous êtes rassasiés, etc. Et maintenant, ils commencent à leur parler. Alors, je suis le pain qui donne la vie. Et quand vous lisez bien ce passage, les gars, ils commencent à discuter, à réfuter ce que Jésus-Christ dit. Et plus loin, ils continuent. Il leur dit, au verset 54, il leur dit, celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ce car ce qui nourrit vraiment, c'est de manger mon corps. Hein? Ce qui délivre de la soif, c'est de boire mon sang. Hein? Qu'est-ce qu'il raconte? Là, ils commencent tous à se regarder. Qu'est-ce qu'il dit? Il faut qu'on mange son corps et qu'on boive son sang. Celui qui se pénètre de ma vie et de ma mort et dont je deviens chair et sang demeure en communion avec moi et moi je vis en lui. Tu sais, quand ils ont entendu ça, lis bien les évangiles, les gars, ils ont regardé Jésus, ils ont dit, mais attends, Jésus, tu nous prends pour des cannibales ou quoi? Tu nous prends pour des cannibales? Tu es sonné, tu as un souci. Hein? Écoute, on t'aime bien, tout ça, il n'y a pas de problème, mais manger ton corps et boire ton sang, imaginez qu'un jour, moi, le pasteur, vous m'aimez beaucoup, vous m'aimez bien, vous m'appréciez, tout ça. Je suis le pasteur de l'église. Et puis un jour, je commence à vous dire, venez buvez mon sang. Vous allez dire, secte. Hein? Vous allez dire, non, là, le pasteur a perdu la tête. Je pense qu'il devient un peu fou. Bon, on s'en va. Et c'est ce qui se passait. Pourtant, il le suivait depuis un bon moment. Il a dit, Jésus, là, ça ne va pas. Et regardez ce qu'il dit. Ensuite, regardez ce que la Bible nous dit au verset 60. Hein? On va lire rapidement. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples se récrièrent ou encore se détournèrent de lui. C'est trop fort. Cette parole est dure. On n'y comprend rien. Impossible d'admettre un tel langage. Qui peut continuer à l'écouter? Jésus savait bien en lui-même quel murmure ces paroles avaient soulevé parmi eux. C'est pourquoi il leur dit, cela vous choque. Dis avec moi, cela vous choque. Ça te choque qu'il faut boire mon sang et manger mon corps. Ça te choque. Cela vous choque. Mais si vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il était auparavant, vous comprendrez. C'est l'Esprit qui donne la vie. Il ne s'agit pas de vous nourrir matériellement de mon corps. Mais non, vous aussi. Oh, voyons. Les paroles que je vous dis sont de nature à communiquer l'Esprit et la vie. Hélas, il y en a qui ne croient pas. Amen. En effet, dès le début, Jésus savait quels étaient ceux qui ne croyaient pas vraiment et qui était celui qui allait le trahir. Aussi ajouta-t-il, c'est bien pour cela que je vous ai dit, personne ne vient de lui-même à moi, il ne peut venir que si le Père lui en donne la possibilité. Ton histoire de conversion là, en Jésus, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Amen. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut incliner le cœur de quelqu'un et vraiment le convertir. C'est pour ça que quand quelqu'un dit, ouais, c'est telle religion qui m'a converti, ou bien c'est, ouais, c'est telle personne qui m'a converti. Non, il n'y a que Dieu qui peut convertir. Cette histoire de cœur là, il n'y a que Dieu qui peut prendre ça et puis convertir. C'est pour ça que quand quelqu'un, tu lui annonces l'évangile, tu lui parles de Jésus et tu vois qu'il est réfractaire, il ne veut pas, laisse tomber. Prie pour lui. Prie que Dieu le touche. Continue, oui, de temps en temps à lui annoncer l'évangile chaque fois que l'occasion t'est donnée. Annonce-lui, parle-lui de Jésus. Mais sinon, prie pour lui. Surtout nous qui sommes dans des familles, par exemple, où tu es le seul qui est né de nouveau et tout le monde ne veut pas entendre parler de Jésus dans la maison. Les gens sont vraiment dans le monde, perdus. Et puis dès que tu commences à dire Jésus, on dit, oh, tais-toi. Non, Jésus, là, tu nous fatigues. Mais Jésus, tais-toi. Ton histoire d'église, là. C'est comme si on vous a vous été les désilluminés. Regardez cela. Moi, je vais vous raconter une histoire. J'étais en classe de 4e. Au lycée Mba. À cette époque, il y eut un grand mouvement de l'esprit dans le pays, et c'est là que sont nées des églises comme Bethany, tout ça. Et un jour, je passais à côté d'une réunion de prière d'une église. Je n'étais pas converti, j'étais bien avec un grand B dans le monde. Et puis, je passe à côté de l'église et je vois les gens en train de prier. Puis je suis resté, je les ai regardés. Et puis j'ai dit, regardez-moi ces illuminés là. Regardez, je disais ça à mes amis, regardez, ils sont illuminés de la gloire de Dieu. regardez-les. Dieu a dit, ok, il n'y a pas de problème. Quelques années plus tard, j'avais donné ma vie à Jésus. Et comme nos championnes qui se sont fait baptiser il y a 2 semaines à la plage, là, moi aussi j'étais allé me faire baptiser maintenant. Je me faisais baptiser. Donc, en tant que né de nouveau, tout joyeux de connaître Jésus maintenant, tout ça, je vais me faire baptiser. Donc,
Naturellement, je vais voir mes frères et mes sœurs pour leur dire, je vais me faire baptiser. Venez à mon baptême. Mon grand frère m'a regardé, il m'a dit, mais toi là, tu es illuminé ou quoi? Hein? Regarde-le, quitte là. Baptême, quel est ton baptême? Regarde-le, illuminé. Et puis, au moment où il dit ça, j'ai l'image qui me revient à l'esprit où je m'étais trouvé devant cette église. Et ça, après, tu me dis, tu vois, à l'époque, tu avais traité les autres d'illuminés. C'est qui est illuminé aujourd'hui? C'est toi qui es illuminé aujourd'hui. Allez, va te faire baptiser. Amen. Donc, et là, qu'est-ce qu'il nous dit? À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et retournèrent à leur ancienne manière de vivre, refusant de le suivre plus loin. C'était trop dur. Ils avaient choisi. Et il rajoute, ils retournèrent à quoi? Leur ancienne manière de vivre dans le monde. Eh ouais. Voici le choix auquel on est confronté quand on suit Jésus par motif personnel, par intérêt. Tôt ou tard, ce motif, il tombe. Et quand tu te retrouves face à une situation où tu dois choisir entre Jésus et ce motif, et que le motif est plus fort que ton désir de suivre le Seigneur, comme eux, tu t'écris, c'est trop fort, on n'y comprend rien, impossible d'admettre un tel langage, je ne peux pas suivre ce Jésus-là. Le gars, il raconte sa vie. Moi, je ne peux pas abandonner ma vie, ma manière de vivre pour suivre son histoire. Je ne peux pas. Mais le vrai disciple, celui qui s'engage sincèrement à suivre Jésus, c'est celui qui abandonne tout. Amen. Et ça, c'est toi et moi. Et quelles que soient les circonstances, quel que soit le motif, quelles que soient les raisons, dans le nom de Jésus-Christ, tu trouveras toujours la force de renoncer et de suivre le Seigneur. Amen. On va finir rapidement. Il y a dans l'Église 5 niveaux d'engagement. Dis avec moi engagement. Il y a 5 niveaux d'engagement dans l'Église que le Seigneur m'a montré. Le premier niveau d'engagement, c'est ce que j'ai appelé l'engagement par sympathie. La personne s'engage parce qu'elle aime bien ce qui se fait à l'Église et qu'elle trouve l'Église sympa ou encore cool, gentil. Mais cette personne n'y met pas son cœur et aucune conviction personnelle. Cette personne ne grandira pas et ne deviendra jamais mature spirituellement. Le deuxième niveau d'engagement, c'est l'engagement pour le pasteur ou encore le leader. C'est quand on trouve le pasteur ou encore le leader bon et intéressant. On décide de lui faire confiance et de l'aider dans sa tâche, mais on n'y trouve pas notre intérêt personnel. On le fait plus par respect pour lui, mais cela ne conduit pas à la maturité spirituelle et tôt ou tard, un tel engagement finit par disparaître et la personne se désengage en cours de route. C'est ce qui s'est passé avec le jeune homme riche qui suivait Jésus, qui marchait avec les disciples pour Jésus. Et Jésus a exposé sa richesse en disant « Abandonne ta richesse et suis-moi ». Et il a choisi sa richesse. Le troisième engagement, c'est l'engagement pour soi. L'engagement pour soi-même. C'est-à-dire, on vient à l'Église parce qu'on trouve notre intérêt personnel et on est convaincu que notre engagement va apporter quelque chose de plus à notre vie. Mais cet engagement-là, pour soi, il reste limité car cet engagement n'est pas pour Dieu, mais pour soi. Il est limité. Toutefois, cet engagement-là est un engagement qui est sincère d'une certaine manière. Okay? Et en cours de route, il peut arriver que la personne rencontre vraiment Dieu en venant à l'Église et décide de suivre le Seigneur par amour. C'était le cas, par exemple, de Judas. Judas s'était engagé pour lui-même. Il ne s'était pas engagé pour Jésus, mais il a eu suffisamment le temps de marcher avec Jésus pour s'attacher à Jésus et faire le choix. Mais il a fait le choix de le livrer. Le quatrième niveau d'engagement, c'est l'engagement pour l'œuvre de Dieu. Dis avec moi l'œuvre de Dieu. Là, on est un peu plus proche de la maturité. On est un peu plus proche plutôt de la sincérité. On s'engage pour l'œuvre en elle-même parce qu'on croit qu'elle va apporter quelque chose de positif dans la vie des gens. Donc, on travaille à son développement. Et cet engagement aide à la croissance spirituelle. Mais cet engagement trouve aussi ses limites en ce que dès que l'œuvre, parce qu'on est plus attaché à l'œuvre qu'à Dieu, ou encore au ministère qu'à Dieu. Vous n'avez jamais vu des gens qui sont tellement attachés au ministère que Dieu devient jaloux même du ministère. Vous n'avez jamais vu ça? C'est comme quand un pasteur, il est marié, une femme, des enfants, et puis il démarre l'église avec sa femme, et puis maintenant l'œuvre grandit, l'œuvre devient célèbre, il devient l'éminent du monde, etc. Et il délaisse maintenant son premier ministère, sa femme et ses enfants, pour l'œuvre. Et c'est comme ça qu'on retrouve des divorces, etc., parmi les couples pastoraux, etc. Parce que tout simplement, le gars, l'œuvre a pris tellement de place dans sa vie qu'il en a totalement, il a totalement oublié qu'il a des êtres chers à côté de lui. Et c'est pareil pour Dieu. Ça peut arriver qu'un homme de Dieu, un pasteur, est plus attaché à l'église qu'à Dieu. Vous n'avez jamais vu ça? Si. Ou bien, tu es assoiffé de Dieu, tu cherches le Seigneur. Et puis un jour, Dieu te donne une révélation d'un business. Et tu crées le business, tu es joyeux, tu dis merci Seigneur pour ce business. Et puis Dieu t'aime, par amour, Dieu te fait prospérer dans ce business. Tu grandis et tu deviens riche. Et ce business devient une grande organisation internationale. Et puis, tu te rends compte qu'au bout d'un moment, tu as lâché la main de Dieu. Tu ne pries plus, tu ne vas plus à l'église, tu ne connais plus Dieu. Tu te remets, maintenant, tu retombes dans le péché, etc., etc. L'œuvre t'a possédé. C'est ce qui s'est passé avec Salomon. Vous ne rappelez pas Salomon? Salomon aimait Dieu. Salomon aimait Dieu, les amis. Salomon n'avait que 20 ans quand il prit le pouvoir. Il fait une offrande insolente à Dieu. Dieu se révèle à lui et Dieu lui demande « Qu'est-ce que tu veux, jeune homme ?» Et il dit « Donne-moi la sagesse et l'intelligence pour diriger ton peuple. » Dieu dit « Waouh, tu es trop fort. Tiens, sagesse, intelligence et richesse. » Mais la richesse l'a perdue. Amen. Ouais. C'est ce qui s'est passé aussi avec ceux-là dont Paul nous parle. Colossiens 4, au verset 14. C'est Paul qui parle. Paul dit... Il parle à quelqu'un et il dit « Luc, le médecin bien-aimé vous salue, ainsi que Démas. » Dis avec moi Démas. Là, Démas ici, dans Colossiens 4, 14, était encore du bon côté. Il était encore chaud bouillant pour le Seigneur. Et plus loin, lettre à Timothée, 2 Timothée chapitre 4 au verset 9 à 10, Paul dit « Viens au plus tôt Timothée vers moi. » Car Démas m'a abandonné. Pourquoi? Par amour pour le siècle présent. Donc, ça peut arriver que tu commences avec le Seigneur, sincèrement, chaud, bouillant, content. Il y en a, ils viennent à l'église, il n'a pas le boulot. Il cherche le travail. Oui, il est resté à la maison, tout ça. Le travail. Seigneur, le travail. Je jeûne 40 jours pour le travail. Je veux le travail. Oh, le travail. Quand j'aurai le travail, le salaire. Oh, le travail. Je vais pouvoir prendre une maison comme ci, comme ça, etc. Un jour, tu touches tellement le cœur de Dieu par ton attitude que Dieu t'ouvre une porte. Ce n'est pas juste un boulot qu'il te donne. Là, il te donne le travail avec le salaire, la voiture, tout ce qu'il faut. Ça arrive seulement. On te promue, tu as un bon poste, etc. Tu dis gloire à Dieu. Sauf que là, ton histoire de travail, là, mais frère, sœur, pourquoi tu viens plus à l'église le dimanche? Ah, pasteur, j'ai eu une réunion samedi soir. Dimanche, j'étais trop fatigué, je ne suis pas venu. Ah, pourquoi tu viens plus à la réunion de prière? Ah, pasteur, vraiment, j'ai plus le temps. Ainsi de suite. Je sais de quoi je parle, les amis. Je sais de quoi je parle. Et beaucoup sont comme ça. Beaucoup, ils étaient passionnés par le Seigneur. Et se retrouvent un jour mariés avec quelqu'un. Mais ils sont tellement passionnés de leur mariage qu'ils n'ont plus le temps pour Dieu. Dieu vous regarde. Mais un jour, Dieu va simplement exposer comme ça, là, bam, bim, bam, boum, et puis tu vas devoir choisir. Amen. Ne sois pas comme Démas au nom de Jésus. Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui, ne sois pas comme Démas. Oui, ne sois pas comme Démas. Sois comme Luc, le médecin bien-aimé. Et moi. Et enfin, le cinquième niveau d'engagement, l'engagement par amour pour Dieu et son royaume. L'engagement par amour pour Dieu et son royaume. C'est-à-dire, on s'engage par amour pour Dieu, on l'aime et on le sert de tout notre cœur. Quel que soit ce qui se passe dans l'œuvre ou avec le leader, on reste pour continuer à servir Dieu. On est totalement dépendant de la direction du Saint-Esprit. On marche par le Saint-Esprit. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Joseph a été envoyé en Égypte. Joseph a souffert le martyre en Égypte. Sauf que Joseph, Dieu s'est révélé à lui et Dieu l'a catapulté premier ministre d'Égypte. Et avec tout le pouvoir qu'il avait entre ses mains, Joseph aurait pu choisir de rentrer, retrouver sa famille. Il est arrivé. Plus rien ne pouvait empêcher Joseph de rentrer. Qu'est-ce que Joseph a fait? Il a choisi de rester en Égypte. Parce qu'il a choisi de rester là où Dieu voulait qu'il soit. Par amour pour Dieu. Amen. Oui. Et quand les gens, je reviens à un autre passage, Jean 6, au verset 65, quand les gens ont abandonné Jésus, regardez ce qu'il dit, Jean 6, 65, et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui était donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc se tourna vers les 12 et dit, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Et là, Simon-Pierre dit une phrase qu'on aime tous. « Seigneur, à qui irions-nous ? » ?»« Tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous ? » Vous connaissez ce chant ?« Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous ? » À qui irions-nous? À qui irions-nous? Et nous avons cru, tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Eux, ils avaient choisi de suivre Jésus par amour, et ils avaient tout abandonné. Et si vous prenez ce passage, vous lisez la suite, il va leur dire, vous qui avez choisi de me suivre et qui avez tout abandonné, vous, il y aura des trônes, il leur a dit des trônes, pour vous, à côté du trône du Père. Ah oui. Donc, quand Pierre, et Jacques et Jean ont entendu le Seigneur dire, oh, frangin, des trônes, oh, gars. Mais plus loin, il va y avoir une dispute entre eux. Bon, c'est quel trône qui sera à ta droite et à ta gauche, là? Il dit, bon, on aura des trônes, ok, on est tous contents. Maintenant, qui va être à côté de toi? Parce que celui qui est à ta droite, là, tu n'as pas remarqué que celui qui est toujours à côté du chef, c'est... Ah! Il est lourd celui-là, il est lourd. Donc là, l'orgueil va monter. Jésus n'aurait pas dû leur dire des trônes, parce que leur orgueil va sortir d'un coup. Hein? Mais il y aura des trônes. Donc celui qui se décide de suivre Jésus par amour et non par motif personnel, celui-là, Dieu va se révéler à lui. Et Dieu va lui permettre d'atteindre la maturité spirituelle et d'entrer en possession des promesses qu'il a pour lui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc je voudrais qu'on incline la tête et qu'on prie. Je voudrais que tu te réexamines. Que tu te réexamines. Je voudrais que tu penses à ta vie, que tu penses à toi-même, que tu penses à ton parcours avec le Seigneur et que tu dises, Seigneur, oh Seigneur Jésus, si je t'ai suivi par motif personnel, si je t'ai suivi pour une raison qui ne te glorifiait pas, je te demande pardon. Je veux te suivre par amour. Et si je ne t'aime pas assez, si je ne t'aime pas suffisamment, oh Seigneur, aide-moi à t'aimer davantage. Aide-moi à t'aimer sincèrement. Aide-moi à te servir avec sincérité. Seigneur, je ne veux pas juste aller à l'église pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne veux pas lire ma Bible pour faire plaisir à quelqu'un. Je veux me lever chaque matin et dire simplement, merci de t'être révélé à moi. Merci pour ton amour. Merci parce que tu m'accordes la grâce de rester, de garder le premier amour. Jésus-Christ dit dans le livre d'Apocalypse à l'église de Philadelphie, reviens à ton premier amour. Reviens à cet amour-là que tu avais au début, chaud bouillant, où tu me servais de tout ton cœur. Mais à cause des richesses, des convoitises de ce monde, à cause de tes motifs personnels, tu t'es éloigné de moi. Non, reviens à moi. Reviens à moi. Voilà pourquoi, Père, j'élève la voix. Oh Dieu, nous élevons la voix. Et nous voulons, Seigneur, nous réexaminer, Seigneur. Et nous te demandons, Père de grâce, que tu nous accordes la grâce de t'aimer sincèrement, de ne pas te suivre comme ces disciples qui t'ont suivi parce qu'ils avaient mangé, qui t'ont suivi parce qu'ils étaient rassasiés. Seigneur, nous ne voulons pas être rassasiés de quoi que ce soit, si ce n'est de ton amour, si ce n'est de ta présence, si ce n'est de ta grâce, si ce n'est de ta paix, si ce n'est de ta révélation, Seigneur. Nous ne prétendons pas te connaître, nous voulons te connaître plus. Nous voulons mettre de côté tous les préjugés personnels, toutes les croyances religieuses que nous avons pu apprendre dans le passé. Et nous voulons simplement nous abandonner entre tes mains à ce Jésus-là qui donne la vie éternelle, ce Jésus-là qui est le pain de vie, ce Jésus-là qui restaure, ce Jésus-là qui guérit, ce Jésus-là qui guérit de toutes sortes de maladies, ce Jésus-là qui est bon, le bon berger, ce Jésus-là qui est humble de cœur et qui s'est fait serviteur, un simple homme, et qui est venu se révéler à moi. Merci parce que tu t'es révélé à moi, Seigneur. Merci, à toi soit la gloire, à toi soit la louange, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, merci, Père. Jésus, tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous reconnaissons, oh Dieu, que plusieurs fois nous sommes éloignés de toi. Plusieurs fois, Seigneur, nous avons marché après toi par motif personnel. Mais aujourd'hui, par ta parole, tu nous rappelles alors et tu nous fais comprendre que nous devons choisir entre nos motifs personnels et toi. Mais Seigneur, ce matin, nous faisons le choix de te suivre par amour. Nous faisons le choix de te suivre par amour. Si tu es là dans cette salle et que ta vie n'est pas une vie qui est en ordre avec le Seigneur, si tu es là dans cette salle et que tu as toujours suivi Jésus par motif personnel, mais tu ne l'as jamais vraiment suivi par sincérité, alors le Seigneur te demande ce matin de le suivre avec sincérité, avec un cœur rempli d'amour pour lui. Si tu n'as jamais entendu parler de l'Évangile et que c'est la première fois que tu entends parler de l'Évangile de cette manière, alors donner ta vie à Jésus-Christ sera la décision la plus importante que tu prendrais ce matin. Et si tu veux prendre cette décision, si tu veux faire ce choix de donner ta vie à Jésus-Christ et de le suivre sincèrement, alors fais juste un pas de foi en te levant, en te mettant debout sur tes jambes et en te confiant simplement au Seigneur. Et à la fin de ce culte, tu viendras simplement nous voir et te confier à nous et nous parlerons. Acquérions-nous, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es Alpha, Oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Merci pour ta grâce. Merci pour cette personne, Seigneur, qui a compris, Seigneur, ta parole et qui, oh Dieu, choisit de te suivre avec un cœur sincère désormais, de donner sa vie sincèrement à toi, de ne pas te suivre par motif personnel, mais de te suivre avec sincérité. Car tel est l'engagement, Seigneur, qui conduit à la maturité spirituelle. À toi la gloire. À toi soit la louange et à toi soit toute l'adoration dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié avec action de grâce. Si quelqu'un peut acclamer le Seigneur.
Merci, Père. Oh Dieu.
Béni sois-tu. Amen.
Nous espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.